Chapitre 8 : Le jargon dit scientifique. La dialectique logique est conditionnée, déterminée par les propositions dans et au sujet de qui ne nous mène jamais à l'expérience directe du réel. Les phénomènes de la nature sont bien loin d'être comme les voiles scientifiques. Certes, dès qu'un phénomène quelconque est découvert on lui donne un nom, on l'étiquette de tels termes difficiles du jargon dit scientifique. Évidemment, ces termes très difficiles de la soi-disant science moderne, ne servent que de paravent pour cacher l'ignorance. D'aucune manière, les phénomènes naturels ne sont comme les voiles scientifiques. La vie, avec tous ses processus et phénomènes, se déroule de moment en moment, d'instant en instant, et quand le mental scientifique l'arrête pour l'analyser, de fait, il la tue. Toute déduction tirée de l'observation d'un phénomène naturel, n'est d'aucune manière égale à la réalité concrète du phénomène. Malheureusement, le mental du scientifique, halluciné par ses propres théories, croit fermement au réalisme de ses déductions. Non seulement l'intellect halluciné voit, dans les phénomènes, le reflet de ses propres idées, mais en plus, ce qui est pire, il veut de façon dictatoriale, que les phénomènes soient exactement et absolument égaux à toutes les idées qui se trouvent dans l'intellect. Le phénomène d'hallucination intellectuelle est fascinant. Aucun de ces scientifiques bornés ultramodernes n'admettrait la réalité de sa propre hallucination. Certes, les pédants de cette époque-ci n'admettraient d'aucune manière recevoir le qualitatif d'halluciner. La force d'autosuggestion leur a fait croire en la réalité de toutes ces idées du jargon dit scientifique. Évidemment, le mental halluciné se vante d'être conscient, et veut de façon dictatoriale, que tous les processus de la nature avancent sur les rails de ses soi-disant connaissances. Dès qu'apparaît un nouveau phénomène, on le classe, on l'étiquette, et on le catalogue à tel ou tel endroit. Comme si vraiment, on l'avait compris. Des milliers de termes ont été inventés pour étiqueter les phénomènes, mais les pseudo-savants ne savent rien de la réalité de ces phénomènes. Comme exemple vivant de tout ce que nous affirmons dans ce chapitre, nous citerons le corps humain. Au nom de la vérité, nous pouvons affirmer instamment que le corps physique est absolument inconnu des scientifiques modernes. Une telle affirmation pourrait paraître très insolente face au pontife de la soi-disant science moderne. Il est incontestable que nous mériterions l'excommunication. Cependant, nous avons des bases très solides pour avancer une si terrible affirmation. Malheureusement, les mentaux hallucinés sont si convaincus de leur pseudo-science, qu'ils sont bien loin de pouvoir accepter la crue réalité de leur ignorance. Si nous disions aux hiérarques de la pseudo-science moderne, que le comte de Cagliostro, personnage très intéressant des XVI siècles, vit encore en plein 20e siècle, si nous leur disions que l'insigne Paracelse, célèbre médecin du Moyen Âge, existe encore, vous pouviez être sûr qu'ils se riraient de nous, et n'accepteraient jamais nos affirmations. Pourtant, il en est ainsi. D'authentiques mutants, hommes immortels au corps datant de milliers et millions d'années, vivent actuellement sur la face de la Terre. L'auteur de cette œuvre connaît les mutants, mais n'ignore pas le scepticisme moderne, l'hallucination des scientifiques et l'état d'ignorance des pédants. C'est pourquoi, d'aucune manière, nous ne tomberions dans l'illusion de croire que les fanatiques du jargon dit scientifique vont accepter la réalité de nos déclarations insolites. Le corps de tout mutant est un franc défi au jargon dit scientifique de ces temps-ci. Le corps de tout mutant peut changer de forme et revenir ensuite à son état normal sans en souffrir le moindre dommage. Le corps de tout mutant peut pénétrer instantanément dans la quatrième verticale, il peut même prendre une forme végétale ou animale et revenir ensuite à son état normal sans en subir le moindre dommage. Le corps de tout mutant lance un violent défi au vieux texte de l'anatomie officielle. Malheureusement, aucune de ces déclarations ne pourrait convaincre les hallucinés du jargon dit scientifique. Incontestablement, ces messieurs, assis sur leur trône pontifical, nous regarderont avec dédain, peut-être avec colère, et peut-être même avec un peu de pitié. Mais, la vérité est ce qui est, et la réalité des mutants, est un franc défi à toute théorie ultramoderne. L'auteur de cette œuvre connaît les mutants, mais n'espère pas qu'on le croit. Chaque organe du corps humain est contrôlé par des lois et forces, que les hallucinés du jargon dit scientifique sont bien loin de connaître. Les éléments de la nature en eux-mêmes, sont inconnus de la science officielle. Les meilleures formules chimiques sont incomplètes: H2O, deux atomes d'hydrogène et un d'oxygène pour fabriquer l'eau, s'avère empirique. Si dans un laboratoire, nous essayons de joindre l'atome d'oxygène au 2 d'hydrogène, nous n'obtenons ni eau, ni rien de tout, car cette formule est incomplète. Il manque l'élément feu. L'eau ne pourrait être créée qu'avec l'intervention de cet élément. Pour brillante qu'elle paraisse, la formulation intellectuelle ne peut jamais nous mener à l'expérience du réel. La classification des substances, et les termes difficiles qui les désignent, ne sert que de paravent, pour cacher l'ignorance. Que l'intellect croit que telle ou telle substance possède un nom déterminé, et certaines caractéristiques, s'avère absurde et insupportable. Pourquoi l'intellect se vante-t-il d'être omniscient? Pourquoi est-il halluciné, et croit-il que les substances et phénomènes sont comme il le pense? Pourquoi la formulation intellectuelle veut-elle que la nature soit une réplique parfaite de toute sa théorie, idée, opinion, dogme, conception, préjugé? En réalité, les phénomènes naturels ne sont pas comme on croit. Les substances et les forces de la nature ne sont d'aucune manière comme l'intellect le pense. La conscience éveillée n'est pas le mental, ni la mémoire, ni rien de semblable. Seule la conscience libérée peut expérimenter par elle-même, et directement la réalité de la vie libre en son mouvement. Cependant, nous devons affirmer instamment que, tant qu'un élément subjectif quelconque existera à l'intérieur de nous-mêmes, la conscience restera prise dans cet élément, et par conséquent, ne pourra pas jouir de l'illumination continue et parfaite.